Italy.
Bonjour, nous sommes un groupe d'étudiants et nous menons actuellement un projet de recherche sur l'histoire de l'immigration espagnole dans le sud de la France et particulièrement à Pézenas.
Nous nous intéressons surtout à une période souvent méconnue, celle du XXe siècle, où de nombreuses familles espagnoles ont fui leur pays dû à de nombreuses inégalités sociales et politiques.
Nous cherchons à comprendre comment ces familles ont reconstruit leur vie et ce qu'il reste de ce parcours aujourd'hui.
En lien avec l'association Alegría Pézenas, nous avons eu la chance d'interviewer
Raymond Alacide, Fernand Soulier, Rosemarie Romero,
qui nous ont partagé leur histoire.
Pouvez-vous nous raconter un peu votre enfance ?
Alors moi, je suis arrivée en France, j'avais 5 ans. Donc je suis née en Espagne et on est arrivé parce que mon père venait faire des saisons sur un domaine viticole de Servian et il venait faire les tailles, les vendanges. Et puis il en a eu assez, il a ramené toute sa petite famille, on était 4 sœurs, ma maman. Et moi j'avais 5 ans, ma plus jeune sœur avait 3 mois et ma grande sœur avait 8 ans. Voilà, donc on est arrivé en France, on ne connaissait pas la langue. Je me souviens que le long trajet, puisqu'on est d'une région au sud de l'Espagne, la région de Murcia. Ah oui. Et donc on avait beaucoup, beaucoup de kilomètres à faire et les routes, les autoroutes n'étaient pas comme maintenant. Donc, on a mis au moins 15 heures. C'est un monsieur qui nous a amenés dans une grande voiture. Et de ma mémoire de petite fille de 5 ans, je me souviens que ma maman pleurait et chantait en même temps « Adios, mi España querida ». Nous, on était petites filles, on ne comprenait pas grand-chose. Ce qu'on savait, c'est qu'on allait retrouver notre papa.
Moi, je suis né en France. Mes parents sont nés en France. Mais mes grands-parents ont fait une immigration économique, si je puis dire. C'est-à-dire que moi, mon grand-père n'est pas parti par rapport à des problèmes politiques en Espagne, mais c'est une immigration économique, puisque mon grand-père et ma grand-mère, qui se sont après rencontrés à Saint-Étienne, ont émigré pour des raisons économiques. C'était en 1916, donc la France était au niveau de sa première guerre mondiale, et donc il y avait pas mal d'hommes qui étaient morts sur le champ de bataille, qui étaient partis à l'armée, et donc il manquait, dans les entreprises françaises, il manquait de la main-d'œuvre. Et donc le patronat européen, d'une façon générale, a envoyé des émissaires dans les pays frontaliers de la France pour aller convaincre ces gens-là, de venir en France et de prendre la place des gens qui étaient morts au combat, si je peux dire, et qui manquaient dans les entreprises. Donc c'est comme ça que mon grand-père, qui était de Aguilas, qui est un petit village au fin fond de l'Espagne, et ma grand-mère, qui était de Campo López, un village à 10 km de celui de mon grand-père, ont été carrément recrutés oui. Pour venir travailler en France en leur disant « ici vous crevez de faim », ce qui était le cas. Chez nous, vous aurez du travail, vous aurez aussi du soleil, et venez. Et la faim les a poussés à partir. Évidemment, ils sont partis, ils ont passé tant bien que mal la frontière, puisque là, on les laissait se débrouiller tout seuls. Et ils se sont retrouvés, puisque mon grand-père était du Aguila, c'est un petit port au fond de l'Espagne, mais ma grand-mère était dans un petit village où il y avait des mines de cuivre. Et je suppose que mon grand-père devait aussi travailler un peu dans ces mines-là. Et donc, le recruteur qui est venu les chercher les a envoyés directement à Saint-Étienne. Donc, mon grand-père et ma grand-mère se sont retrouvés sans se connaître à Saint-Étienne. Mon grand-père a de suite été embauché dans les mines, dans lesquelles, d'ailleurs, il est resté enfermé 3 jours et 3 nuits après un coup de grisou. Et à qui, bien sûr, on enlevait, à ceux qui en avaient une montre, pour ne pas savoir combien de temps ils travaillaient au fond de la mine. Voilà, donc mon grand-père et ma grand-mère se sont retrouvés à la colonie espagnole qui existait déjà à Saint-Étienne et qui a fait que grandir, puisque au fur et à mesure que les immigrés arrivaient et qui étaient employés dans les mines, ils se sont tous retrouvés ensemble pour faire ce qu'on appelait la colonie, qui existe toujours à Saint-Étienne, la colonie espagnole. Mes grands-parents ont tous été malades, puisqu'il y avait un climat très humide, etc. Donc ils étaient malades en permanence. Donc il y en a un qui est parti à pied chercher du travail vers le soleil. Il s'est retrouvé à Bessan. Et à Bessan, il y avait du travail dans les vignes, etc. Il les appelait, enfin, il leur fait savoir qu'il y avait du boulot et qu'il y avait du soleil surtout. Et donc, ils sont tous redescendus à pied. Ils se sont tous plus ou moins intégrés dans la vie économique des environs, enfin, de Bessan et compagnie.
Moi, je suis née en France. Et mes parents, mon père, malgré son nom, Romero, est né en France. Et ma mère est née en Espagne. Et c'est plutôt mon grand-père paternel qui est venu en France dans des conditions très compliquées. C'était tabou et de parler de ses conditions, de ce qu'il vivait. Et ma mère m'avait dit, même une fois, quand j'essayais de lui poser des questions, parce qu'elle, elle a vécu jusqu'à 24 ans en Espagne, j'ai dit, mais maman, comment ça se passait, tout ça. Elle m'a dit, mais pourquoi tu veux remuer des choses qui ont été très dures pour nous et tout? Oublie, maintenant, on passe à autre chose. Voilà. Donc, de cette période-là, j'ai que beaucoup de blanc. Par contre, de ce que j'ai pu apprendre de mon grand-père, c'est que mon grand-père, qui s'appelait Romero, avait à peu près 12 ans. Il était dans la région de Denia, sûrement dans une famille avec très peu de moyens financiers, crise économique là-dessus. On disait avant, il se vendait. Il est allé en France et il a été adopté. Alors, vous allez me dire, comment on peut, en France, adopter un enfant? Et c'est sous forme d'adoption simple. Vous savez, il y a l'adoption simple, c'est que la personne qui t'adopte ne vous donne pas son nom, ne vous donne surtout pas d'héritage, mais il a le droit de vie et de mort presque sur vous. Et c'est ce qui s'est passé pour mon grand-père, c'est-à-dire qu'il a été adopté par un monsieur propriétaire d'un domaine viticole à Saint-Jean-de-Fosse. Et il faisait l'ouvrier pour pas grand-chose, juste le gîte et le couvert, pour qu'il ait la force de travailler. C'était de l'esclavage avant, hein, cette forme-là d'adoption, dans cette condition-là, quoi. Voilà.
Alors, bon, de ma mémoire de petite fille de 5 ans, nous étions déjà scolarisés. On était en Espagne, on était scolarisés. On est arrivés dans un domaine viticole de Servian. On nous a mis dans une école de religieuses. On ne connaissait pas la langue, on ne connaissait rien du tout. Et là, ça a été... Je me souviens, ça a été super dur pour moi. On était... Donc c'était dans les années 64. On nous appelait les Espagnols de merde. Voilà. Et on nous disait, par exemple, quand il y avait une épidémie de poux dans une classe, que c'était nous, parce que nous n'étions pas propres, alors que ce n'était pas du tout le cas. Ce sont des petits faits qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué. Mais dans un mois après, on parlait le français.
Là où la difficulté pour ma mère, c'était l'école. Espagnol de merde. C'est un juron qu'ils ont entendu souvent, très souvent. Contrairement à ce que on peut dire par certains moments, il ne faut pas le généraliser, je dis bien, il ne faut pas le généraliser, mais à l'école, elle l'a entendu souvent, et même en dehors de l'école parfois. Donc ça, ça a été le plus dur de ce qui a été l'intégration. Mes grands-parents, mon grand-père était ouvrier agricole, soumis du lundi matin au dimanche soir, presque à travailler dans les vignes pour l'un, pour l'autre, exploité et surexploité, qui était déjà bien content de travailler, si je puis dire. Et puis, voilà, pas de vagues, pas de... Voilà. Donc, le plus dur, ça a été surtout la génération de ma mère, là. Les filles d'immigrés espagnols. Un peu comme maintenant. Mais, tu viens prendre le travail des Français, ils entendaient quand même déjà ça.
Et du coup, vous, ça ne vous a pas du tout percuté, ce genre...
Moi, je n'ai pas eu de répercussions à ce niveau-là. Non. Ça s'est arrêté à ma mère.
C'est passé.
Oui, après, avec
justement,
le temps...
Justement, après, ça commence à dater, comme vous l'avez dit.
Et puis, l'immigration a changé. C'était plus les Espagnols qui venaient.
Ce que je peux vous raconter du fait que ma mère ait quitté l'Espagne, c'est que les côtés positifs. Parce qu'il ne me donnait que ce côté-là, quoi. Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda
besarlo cuando esté lejos de ti. Quand vos grands-parents, pour trouver un logement, par exemple, pour vivre à Bessan, ça a été compliqué ou c'était un peu comme pris en charge par rapport au travail?
Ça a été compliqué. Non, pas en charge à Paris du tout. Non. Ça a été compliqué puisque sur Bessin, ils habitaient presque au milieu des vignes, à un moment donné, dans des petits cabanons, etc. Ça n'a pas été simple, quoi. Ils ont petit à petit, par le fruit de leur travail, pu acheter une maison ou en louer, mais ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, quand même, puisqu'ils habitaient ce qu'on appelle le village noir à Bessin. Village noir parce que apparemment il y avait quelques personnages un petit peu à marge de la société qui habitaient là-bas et donc ça avait été baptisé comme ça et donc mes grands-parents habitaient là-bas mais habitaient en location évidemment. Après ils ont acheté une maison dans le village et voilà. Enfin ils ont travaillé, ils ont beaucoup travaillé. Sobre su cuenta divina, hecha con nardo y gamé. Rezaré pa que me ampare aquella que está en Sahel. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte.
Comment ils ont appris le français? Ça a été petit à petit sur le tas avec
Le paradoxe, c'était comme je voyais toujours ma grand-mère lire le journal. Ah. Elle le comprenait. Sinon, elle le comprenait, mais elle ne parlait pas le français. Elle parlait le yogourt avec des trucs francisés, la pomme, le beurre, le beurre. Enfin, voilà, ils essayaient de s'adapter avec leurs pauvres moyens. Mais... Non, après, à l'oreille, ils comprenaient quand même, hein, quand on leur parlait que français, ils comprenaient très bien. Hein. Mais bon, ils n'avaient pas, bien sûr, notre langage à nous.
Mes parents n'ont jamais voulu parler en français. Donc du coup, à la maison, ben, on parlait...
Espagnol. C'était pour garder plutôt le côté tradition.
C'était parce qu'ils ne voulaient surtout pas, je pense, hein, oublier leur pays. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Soy un pobre migrante y traigo a esta tierra extraña en mi pecho un estandarte con la alegría de España, con mi patria y con mi novia y mi bien de San Gil y mi rosario de cuenta. Yo me quisiera morir.
Donc voilà, moi j'ai été extrêmement marqué par les récits que l'on m'a fait de la guerre civile espagnole. Et puis ma grand-mère a pleuré, et mon grand-père n'en parlait pas. Et puis mon oncle pleurait, et puis l'autre, hein, il a été déporté à Auschwitz. Et ça, on en a eu énormément de témoignages. Parce que tous ces immigrés espagnols qui étaient arrivés en émigration économique, cela avait eu des enfants, et ces enfants-là sont tous plus ou moins partis défendre la République espagnole. On a vécu au plus près la guerre civile espagnole depuis le territoire français, puisqu'ils étaient sur Bessan, mais tous les enfants, il y avait des camions qui passaient dans Bessan, me disait ma mère, et les jeunes montaient sur les camions pour partir en Espagne défendre la République. Donc ça a été vraiment quelque chose de très marquant dans notre famille, de très très marquant. Moi j'ai un oncle de ma mère qui est parti faire la bataille de l'Ebre et qui lui, lorsqu'on lui demandait quelques témoignages, commençait à ouvrir la bouche et puis se mettait à pleurer, il n'y avait plus un mot qui sortait, on n'a jamais pu le faire parler de quoi que ce soit parce qu'il n'en avait pas les moyens physiques, ni... voilà.
Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes. Olvida falsedad.
C'est vrai qu'en y allant souvent, je pose même des questions à des amis de mes parents ou autres. Et j'ai eu des témoignages qui sont flippants. On se dit, on comprend pourquoi les anciens se disait, bon, on ne va pas tout raconter à nos enfants ou aux amis parce que c'est horrible par moments. Et il y en avait un qui m'avait raconté qu'ils étaient dans la rue, il y avait le couvre-feu, bien sûr, à une certaine heure, hein, et il se trouvait qu'il y avait un voisin qui avait une petite déprime amoureuse et qui était un peu allé s'alcooliser au bar du coin et qui traînait dans la rue. Alors que c'était l'heure du couvre-feu. Et il s'est fait tabasser dans la rue par les franquistes, la Guardia Civile franquiste à l'époque, oui. Et qui l'ont laissé comme mort dans la rue. Et il est mort après des suites de ces... Et ça les a beaucoup marqués, quoi. Quand ils me l'ont raconté, ça faisait des années, bien des décennies plus tard, on voyait encore la peur et
dans le regard.
Ouais, dans le regard.
Il y a eu, après la retirada en 39, quand les républicains espagnols ont franchi les Pyrénées, il y a eu un camp entre Agde et la route de Marseillan, sur la plage là où il y avait des républicains espagnols qui avaient été parqués là, et donc toute la population immigrée espagnole, dont ma mère, qui à cette époque-là devait avoir 14 ou 15 ans, allait leur rendre visite pour les aider à survivre, parce qu'ils étaient parqués comme des bêtes, sans très peu d'habitations pour se mettre à l'abri, ils se couchaient sur le sable, les femmes accouchaient sur le sable, ils mouraient, il y avait des gens qui mouraient tous les jours, et ils restaient souvent sur place. Donc ma mère me disait que le dimanche, elle prenait le vélo et d'une maigre pitance que ma grand-mère avait déjà faite pour les huit qui étaient dans la famille, elle en prenait une partie et elle allait à vélo de Bessan à Agde et leur amenait un peu à manger pour les aider à survivre. Et ça, c'est quelque chose qui, par rapport à mon attachement à l'Espagne, par rapport à mes réflexions d'homme, m'a profondément marqué.
Cuando yo muera, amado mío, no me mandes flores a casa. No pongas rosas sobre el mármol de mi fosa, no. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. Escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. Cuando yo muera mañana, 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 habrá cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola, que ya siempre estaré sola. cesado el miedo de pensar que ella siempre estaré sola, que ella siempre estaré sola.
Et est-ce que savez-vous pas s'ils regrettent leur choix d'être venus en France ?
Mon grand-père n'a jamais voulu retourner en Espagne. Ma grand-mère en parlait, mais enfin, elle n'était pas très convaincue de son retour. Ils avaient peur.
Ah, mais moi, je me suis épanouie en français, il n'y a pas de souci.
Vous n'avez aucun regret d'être venue ici ?
Non, je n'ai aucun regret. Je me sens autant française qu'espagnole. Alors, j'ai quand même une affection toute particulière pour l'Espagne. Hein. Donc, c'est mon pays. Enfin, pour l'Espagne, pour le village où je suis née. C'est un petit village qui est tout simple, mais je l'adore, ce petit village.
Qu'est-ce que tu penses qui a manqué le plus à ta famille à leur arrivée en France ?
Le peu que j'ai pu en parler avec mes grands-parents, qui n'ont pas manifesté beaucoup de regrets. Hein. Parce qu'il y a eu cette forme, l'homme est grégaire. Hein. Dès qu'il s'en va de quelque part, s'il trouve quelqu'un qui lui ressemble, il se met en groupe avec lui. Et je vous disais qu'à Saint-Étienne, il y a eu la colonie espagnole. Donc tous ceux qui est les Espagnols qui étaient arrivés là-haut, ils sont tous mis ensemble dans le même quartier. Ils parlaient l'espagnol, ils faisaient la fête en espagnol, les paella espagnols et compagnie. Donc ils ont retrouvé un petit peu, je ne dirais pas leurs racines, mais enfin ils ont trouvé un milieu qui était conforme à ce qu'ils pouvaient vivre, quoi, sur le plan intellectuel et sur le plan de la vie quotidienne, quoi. C'était pas de la famille, mais en fait c'était un cousin, un petit cousin, l'ami de frère d'un cousin. Enfin, c'était. Ils se sont retrouvés dans un milieu qui les a pas trop dépaysés, si ce n'est par le travail et le climat. Et le climat.
Quand vos grands-parents vous parlaient de ce qui leur est arrivé, ils parlaient plus avec nostalgie, enfin de l'Espagne avec nostalgie ou avec du regret, parce que du coup ils y sont jamais
retournés.
C'est
le grand regret que j'ai. C'est de ne pas avoir demandé à ma grand-mère comment c'était ton village. Et donc, on n'a jamais parlé de ça, de leur vie en Espagne. Bon, ils sont partis, ils n'étaient pas... Quand même, ils avaient vécu autour de 15 ans chacun en Espagne. Mais on n'a jamais parlé de ce que c'était. Ils te parlaient toujours. Si tu veux, j'avais l'impression que toute leur famille était revenue en France. Et que quand ils en parlaient, c'était quelqu'un, leur voisine, leur frère, leur sœur, ils étaient là. Ma grand-mère, elle avait tout... Tous ses frères et soeurs, une grosse partie de ses frères et sœurs qui étaient sur Bessin. Mon grand-père, c'était l'inverse, ils étaient pratiquement tous restés à Saint-Étienne. Mais voilà, si tu veux, ils étaient pas. Ils parlaient pas trop de ce qu'ils avaient vécu en Espagne. Ils étaient entre eux, il y avait le frère, il y avait la sœur, on était contents, tout le monde était là, en vie.
Il y avait la famille.
Et la colonie espagnole à Saint-Étienne les a maintenus dans cette ambiance un peu familiale, quoi, si je peux dire.
Permettait de tenir les deux bouts face à la situation.
Aussi, absolument, sur le plan psychologique, ça a dû beaucoup les aider. Bien sûr. Quand tu te retrouves seul dans un pays étranger, sans la langue et sans rien, ça doit être très compliqué.
J'aurais aimé, à la retraite, ça fait 3 ans que je suis retraitée, repartir, parce que mes parents sont repartis. Ils avaient 80 ans, ils sont peut-être partis un peu tard, parce qu'ils n'ont plus retrouvé l'Espagne qu'ils connaissaient. Ma sœur aussi, ma sœur aînée, est repartie après son bac, et nous sommes restés là, moi et mes deux sœurs. Mais je disais, quand je serai retraitée, je repartirai. Mais j'ai 4 petits-enfants, j'ai 4 merveilles, donc...
Oui, c'est compliqué de les laisser.
C'est compliqué de partir, voilà. Peut-être, quand je serai un peu plus âgée, que les petits seront plus grands, je repartirai. J'ai ma sœur qui habite là-bas, j'ai encore ma maman qui est là-bas de 99 ans. J'y vais très souvent, j'y vais très souvent.
En Espagne, je n'ai que des très bons souvenirs parce que j'y vais en vacances.
J'avais une question. Du coup, pour vous, aujourd'hui, ça vous fait quoi de nous raconter du coup, les récits de vos grands-parents ?
Ce que ça me fait, mais c'est quelque chose de très important, ça. À l'heure où l'on voit des idées de haine, des idées de division entre les gens. Quand on voit qu'on recommence avec force à désigner l'étranger comme l'ennemi principal, c'est important de vous dire à vous, votre jeune génération, faites gaffe. Faites gaffe, c'est pas sous le couvert d'une notabilité ou d'une respectabilité, les idées qu'il y a derrière certaines formations politiques aujourd'hui sont dangereuses. Et c'est cette vision-là, cette conscience politique qu'à travers les récits de la République espagnole, en tout cas de son combat, nous a fait à nous prendre une conscience politique. Aujourd'hui, ce témoignage, il sert à ça, à vous dire que ce que nous, on a entendu dire et ce que d'autres ont vécu en Espagne, faisons attention que cela ne puisse pas se reproduire chez nous.
Que jamás se aleja.
Merci à tous et à toutes. C'était la classe de BTS Tourisme du lycée Jean Moulin sur un projet en partenariat avec le service jeunesse et prévention de la ville de Pesnas,
CISPD de la communauté d'agglos Hérault Méditerranée,
la CAF de l'Hérault. Et merci à nos encadrants, Monsieur Gallic, Sergio
et RPH.
Infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares, dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar.
Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán, no pasarán, no pasarán.